France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and in the house.
Halia, Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Bien sûr que le cinéma raconte l'époque, mais l'époque justement est particulièrement troublée. La Mostra de Venise qui est en cours est une carte du monde qui va mal cette année, avec Gaza bien sûr, avec le match du Kremlin, avec le complotisme qui nous entoure, avec la peur du nucléaire qui nous menace, et avec Corinne Pellissier qui fera avec nous cette photo de Venise. Les États-Unis, c'est encore eux qui tirent sur un bateau vénézuélien. Il a la gâchette légère, le président, mais c'est quoi cette histoire? Louise Baudet va nous l'expliquer en remettant le monde à l'endroit. Le reportage ce soir continue de humer l'atmosphère de New Delhi. Croyez-moi, c'est pas réjouissant, c'est même terriblement étouffant.
C'est une centrale qui brûle 2000 tonnes de déchets non triés par jour. Ils font tout brûler en ajoutant du pétrole. Le résultat est catastrophique en termes de pollution de l'air.
Un reportage de Combastin à découvrir vers 18h38. Vous apprendrez aussi ce soir que ABBA est sorti du patrimoine officiel suédois, mais ça va pas la tête. Et Elena Moriusev, qui lit les auteurs qui écrivent Le Monde, va nous emmener de Bruce Willis à l'avenir de l'Europe. Allez, Le Monde est vaste et on n'a pas une heure. À midi. Voilà, ce qu'on entend là, c'est donc il y a quelques jours au démarrage du Festival de Venise. On est à deux doigts du tapis rouge, vraiment, il y a vraiment du monde. Gaza qui ne pouvait pas être absent de Venise, mais la Mostra a aussi été une carte géopolitique, je le disais, des points chauds de la planète et des craintes aussi les plus fortes du moment. Bonsoir Corinne Pellissier.
Bonsoir.
C'est vous qui revenez tout juste de Venise. On va commencer par ce qu'on entend là, Corinne, par Gaza justement, parce que d'abord la manifestation a vraiment marqué le démarrage du festival, et puis peut-être aussi et surtout à cause d'un film projeté au moment où on se parle, que vous avez vu, il a secoué des larmes de ceux qui l'ont vu, vous y compris d'ailleurs.
Ouais, il aurait été bizarre en fait, qu'un grand festival comme la Mostra ne s'empare pas de ce sujet pour prendre un engagement fort. Vous évoquiez la grande manif de ce week-end, c'est ce que sont venus chercher précisément ces acteurs. Ils avaient trouvé le démarrage un petit peu mollasson. Le président du jury, Alexander Payne, le réalisateur américain, avait botté en touche en conférence de presse. Il avait expliqué qu'il ne se sentait pas prêt à aborder le sujet. Ce qui est assez peu audible finalement sur un festival comme celui-ci où on attend qu'il nous raconte le monde, qu'il nous aide à trouver des réponses. On ne vient pas à Venise ou même à Cannes pour le tapis rouge, pour voir des stars, des grands films, des grands réalisateurs, en tout cas pas seulement. Ça doit être aussi, et c'est dans leur ADN, le reflet du monde, des grandes questions qui nous traversent, et la situation à Gaza en fait partie. C'est un sujet qui est difficile à manipuler. À Cannes, en mai dernier, il y avait eu pas mal de critiques contre le festival qui avait laissé à la toute petite sélection de l'acide, le soin d'organiser cette soirée hommage à la photojournaliste Fatah Hassona du film Put Your Soul on Your Hand and Walk, voilà, de Sepi Defarsi. Elle avait été tuée avec sa famille à Gaza au lendemain de sa sélection cannoise. Et aujourd'hui, à la Mostra, eh bien, le film qui fait événement raconte une histoire qui est assez semblable, celle de la disparition au mois de janvier l'année dernière d'une petite fille de 6 ans tuée à Gaza par les troupes israéliennes. Le film s'appelle La voix de In Rajab, réalisé par la Tunisienne Kauter Benania, qui a donné tout à l'heure à la mi-journée une conférence de presse où elle a été très applaudie, plus que n'importe quelle autre vedette sur le tapis rouge. La projection du matin, qui est normalement réservée à la presse, aux professionnels du cinéma, avait été complètement folle. Ouais. Les gens pleuraient, se jetaient dans les bras de leurs voisins. Complètement fou. On voulait un engagement fort du monde du cinéma. Et bien voilà, en voilà un. Celui notamment de Saja Kilani. Elle est comédienne dans le film et elle a tenu en préambule de la rencontre à nous adresser un message.
Au nom de tous les acteurs et de toute l'équipe, nous demandons, n'est-ce pas suffisant ? Assez des massacres, de la famine, de la déshumanisation, de la destruction, de l'occupation permanente. La voix d'Ind Rajab n'a pas besoin d'être défendue. C'est la voix de chaque fille et de chaque fils qui ont le droit de vivre, de rêver, d'exister dignement. Pourtant, tout cela a été volé sous nos yeux impassibles. La vraie question est, comment avons-nous laissé un enfant implorer sa vie ? Personne ne peut vivre en paix tant qu'un seul enfant est contraint d'implorer sa survie.
Alors, pour bien comprendre son rôle, Saja Kilani, dans le film, c'est une des personnes, ce jour-là, qui sont présentes au centre d'appel des urgences de Ramallah. On est le 29 janvier 2024, à 83 km de Gaza. Et au bout du fil, il y a cette petite fille, In Rajab, dont la voix, à l'époque, a fait le tour des réseaux sociaux, ému aussi le monde entier, si vous vous souvenez. Voilà, c'est son histoire que raconte le film de Kauter Benania. Elle aurait pu en faire un documentaire, elle a choisi la fiction, mais tous les documents audio que vous entendez, tous les enregistrements sont réels. Le résultat est glaçant. 8 minutes, en fait, auraient pu suffire, hein, quand on regarde le film, pour sauver cette petite fille. Les secours le plus proche n'étaient pas loin, mais à cause des procédures, de toutes les lourdeurs administratives, ça a pris des heures pour le résultat qu'on connaît. Alors, ce qui est fou quand on regarde le film, c'est qu'on y croit. On a beau connaître l'issue, on y croit.
Qu'elle va s'en sortir, pauvrette.
C'est très tendu. On ne peut pas s'empêcher de se dire que les secours vont arriver, que la petite fille va pouvoir rentrer chez elle, qu'elle sera sauvée. On ne retrouvera son corps en fait que 12 jours plus tard, entouré de 6 membres de sa famille dans une voiture criblée de balles. On a compté plus de 350 impacts. Encore une fois, un résultat glaçant accompagné d'images d'archives qui ont fait basculer la Mostra cet après-midi dans un moment politique très fort. Car ce qu'on nous montre ici, c'est l'invisible, c'est l'attente, la peur, le silence insupportable quand personne ne vient. Ce film-là, c'est évident qu'il figurera samedi soir au palmarès. On ne peut pas imaginer le contraire. Il n'a pas encore de date de sortie en France. Mais on sait déjà qu'il a été choisi par la Tunisie pour représenter le pays aux Oscars.
Voilà, on a bien conscience que ceux qui l'ont vu l'ont pris un peu dans la figure, et notamment vous, Corinne. Il y a un autre film qu'on prend un peu dans la figure, et là aussi, un autre sujet qui secoue le monde, entre l'Ukraine, entre la Russie, c'est le match du Kremlin d'Olivier Assayas. D'après le livre de Giuliano D'Ampoli, Jude Law, évidemment, en Vladimir Poutine.
Ouais, c'est un peu le grand pari du film, dans lequel il forme un duo assez excellent avec Paul Dano, le mage du Kremlin, le conseiller et faiseur de roi Vadim Baronov dans le livre. C'est un personnage romanesque, ambigu, inspiré d'un homme d'affaires politique russe, Vladislav Soukhov, auteur du concept de démocratie souveraine, de la verticalité du pouvoir, considéré comme le principal idéologue du Kremlin.
How are my ratings? Elections are coming, Vadim.
You don't really need to worry. Around 60%, the closest candidate gets no more than 12.
I'm not interested in them. They're insignificant. One Russian is more popular than I am. Stalin.
I believe he's been dead for some time.
Alors Corinne, le livre a été écrit peu de temps après l'invasion de l'Ukraine, mais le film, lui, il est fabriqué alors que la guerre est toujours en cours. Et ça, il a fallu qu'Olivier Assayas s'en tienne compte.
Ouais, pour être crédible, en fait, il fallait évidemment coller au maximum à la réalité d'aujourd'hui, durcir le ton du roman, ce qu'a fait Olivier Assayas en retravaillant le script épaulé de son ami Emmanuel Carrère, qui est un fin connaisseur de la Russie. Ce que je trouve intéressant dans ses ajouts, c'est toute la partie sur les années 90, ce vent de liberté qui emporte et tout ce pays qui est en train de changer. On veut faire du business, danser, écouter du rock. Ils sont allés là-dessus beaucoup plus loin que dans le roman d'origine.
Et alors Olivier Assayas, Corinne, vous l'avez rencontré donc à Venise, il vous a expliqué ce qui l'intéressait dans l'histoire du mage. C'est pas juste la trajectoire de Vladimir Poutine, c'est aussi la manière dont l'ascension pose les bases de ce qui va se passer ensuite et qui documente aussi le pouvoir. Écoutez-le, Olivier Assayas.
L'histoire politique de cette période-là, c'est vraiment la matrice du monde dans lequel on vit. C'est réellement les modalités du politique d'aujourd'hui se mettent en place à ce moment-là, à cet endroit-là. Et ensuite, elles vont rayonner sur le monde entier. Les pions se sont mis en place à cette période-là. Et c'est ça que je voulais saisir, ce moment-là, de façon à le faire résonner et qu'au fond, qu'on sorte du film en ayant le sentiment qu'on est autant présent. Quand j'écrivais l'adaptation du livre de Giuliano, je me disais, au fond, d'ici à ce que le film se fasse et qu'il sorte, le monde aura changé, la politique aura changé, la guerre d'Ukraine sera terminée. En tout cas, j'espérais. Et en fait, progressivement, en préparant le film, en faisant le film, en le montant, en le regardant achever, j'ai l'impression que c'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que le livre de Giuliano était encore plus prémonitoire que lui-même ne le croyait, et qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est parfaitement celle que Giuliano décrit et qui est l'état particulièrement alarmant du monde. On est dans le pire, et donc avec l'espoir, avec peut-être qu'on va remonter.
Ben, écoutez, on croise les doigts, on a déjà hâte. En tout cas, le film sort normalement en France à partir du... Enfin, pas à partir, le 21 janvier prochain. Et puis Corinne, après donc Gaza, après la Russie et l'Ukraine, les États-Unis, l'état de leur démocratie, l'état de cette société qu'on comprend de moins en moins avec deux regards. D'abord celui de Yorgos Lanthimos.
Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, en fait, il suffit un peu de se pencher pour trouver un sujet exploité dans le registre de la comédie ou de l'horreur. Yorgos Lanthimos, qui avait déjà remporté un Lion d'Or à Venise, est arrivé ce week-end avec une nouvelle farce baptisée Bugonia, avec Jesse Plemons et Emma Stone, dans une histoire d'extraterrestres et de complotisme complètement barré. C'est la CEO d'une grande entreprise enlevée par un apiculteur qui est persuadé qu'elle est une alien et qu'elle veut détruire le monde. Ça donne à peu près ça.
It all starts with something magnificent. A flower, then a honeybee. The workers gather pollen for the queen.
C'est un film que je trouve intéressant parce que derrière l'humour, le vernis de la comédie, bien c'est la photo de l'Amérique de Donald Trump, de tous ses soutiens qu'on va retrouver, la violence verbale et physique, les fausses informations, le rejet des élites, toujours avec cette caméra déformante, ces images saturées qui poussent tous les curseurs dans le rouge. C'est vraiment une image de l'Amérique qui s'effondre. On pense évidemment à l'épisode de l'attaque du Capitole, aux sorties du président contre la presse, avec notamment une gifle qui a scéné à un moment dans le film, qui est complètement la métaphore de celle que le pays a reçue le soir de l'élection du président.
Et puis, Corinne, il y a Catherine Bigelow, qui suit son pays dans ses engagements, que les engagements soient contestables ou pas, depuis Des Mineurs, depuis Zero Dark Thirty. Là, elle a choisi la menace nucléaire, elle a choisi la crainte du nucléaire. On n'a pas tout à fait l'esprit à la fête chez Bigelow.
Là encore, le sujet colle tellement à l'actualité. Regardez la photo des dirigeants réunis contre l'Occident, la Russie, la Chine, la Corée du Nord. Et demain, eh bien, c'est cette question que pose le film de Catherine Bigelow. Ça s'appelle The House of Dynamite. Qu'est-ce qui va se passer si un jour, comme à l'écran, une ville américaine est menacée, des millions d'individus risquent de mourir parce qu'un missile a été lancé, qu'on pensait que c'était un test, qu'on n'a pas pu le stopper, qu'on ne sait pas d'où il vient et qu'il reste une seule minute pour décider du pire, sacrifier des innocents ou déclencher la guerre globale. On est plongé ici au cœur des agences de défense américaines. Le défi est cornélien. Mais au niveau du récit, je vais vous dire, le résultat importe peu car ce que voulait surtout Catherine Bigelow et son scénariste Noah Oppenheim, eh bien, c'est susciter une conversation sur un sujet capital.
Les armes nucléaires, ça concerne tout le monde. C'est un problème mondial. On arrivera peut-être un jour à réduire notre arsenal. Il faut rester optimiste. Mais en attendant, c'est comme si on vivait dans une maison remplie de dynamite.
Nous avons commencé à écrire il y a environ 2 ans. Mais je pense que le sujet, l'histoire que nous essayons de raconter, reflète vraiment la réalité de notre monde depuis le début de l'ère nucléaire. Depuis que ces armes ont été développées, 9 pays aujourd'hui possèdent l'arme atomique. C'est un arsenal suffisant pour détruire plusieurs fois la civilisation humaine. C'est nous qui avons fabriqué ça.
Ce que nous voulons, c'est plonger le spectateur au cœur du STRATCOM, l'agence de contrôle militaire sur ces armes, que chacun soit en mesure de se faire son propre avis, de prendre sa propre décision dans une situation comme celle-là. Moi, jusqu'ici, j'étais pour engager une réduction du stock d'armes nucléaires. Depuis le film, je veux qu'elles disparaissent toutes. En quoi l'anéantissement du monde serait-il une bonne mesure défensive ? Que pensez-vous défendre ?
Voilà, on a le film là aussi.
Ouais, le film sort sur Netflix le 24 octobre.
Okay.
Je vous fais un petit résumé.
Ouais, redonnez-nous des dates de sortie parce que vous nous avez mis l'eau à la bouche et puis après on ne sait plus quand ça sort.
Donc,
bon, on va le mettre aussi sur le site de l'émission.
En premier, le film de Catherine Bigelow, 24 octobre. Voilà. Ensuite, il y aura Bugonia en novembre de Yorgos Lanthimos et le 21 janvier, le film d'Olivier Assayas sur le match du Kremlin.
Voilà, avant ça, il y a quand même le palmarès donc de la Mostra, samedi. Ce sera samedi. Est-ce qu'on a eu dans l'ordre votre palmarès là ou pas plus ou moins encore
Plus ou moins, la logique évidemment voudrait que ce soit le film de Kauter Ben Nania qui l'importe, qui l'emporte parce qu'il est tellement fort et écrase tout.
Ouais. Qui est diffusé en ce moment, il faut le rappeler. Donc si ça se trouve, on en reparle beaucoup là, dans les heures qui viennent et les jours qui viennent.
Après, on aime beaucoup aussi, on n'en a pas parlé, le film de François Ozon, c'est pas du tout pour être chauvin, mais François Ozon a adapté L'étranger de Camus dans une très belle version en noir et blanc, avec Benjamin Voisin et qui joue le rôle de Meursault. C'est aussi une nouvelle lecture très moderne qui recontextualise complètement le texte de Camus.
Eh bien, Corinne Pellissier, merci beaucoup. On vous attend avant, bien sûr, peut-être, mais surtout samedi pour le résultat de la Mostra. Merci encore. La suite, c'est Louise Baudet qui remet le monde à l'endroit, Louise.
De la drogue, du pétrole, la tête d'un président mise à prix, cocktail explosif en mer des Caraïbes et question récurrente, que cherche Donald Trump?
Et c'est juste après ça. Bluesman louisianais Robert Finley en duo avec sa fille qui s'appelle Christy Helping Hand. C'est dans la playlist de France Inter. Allez, le monde à l'endroit, c'est Louise Baudet.
Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Louise, pourquoi Trump a-t-il le doigt sur la gâchette en mer des Caraïbes, le Venezuela dans le viseur?
Oui, un bateau bombardé par l'armée américaine, la tête du président vénézuélien mise à prix et la grosse cavalerie qui débarque en mer des Caraïbes, un vrai western où Trump serait le shérif et Maduro le hors-la-loi. L'embarcation frappée hier dans les eaux territoriales internationales caribéennes transportait, selon le président américain, de la drogue du cartel vénézuélien Tren de Aragua à destination des États-Unis. Bilan, 11 morts et une tension qui monte encore d'un cran. Voilà bientôt 3 semaines que les États-Unis ont commencé à se déployer dans la région. Armada impressionnante. 7 bâtiments, dont un sous-marin à propulsion nucléaire et 3 navires amphibies d'assaut. 4500 Marines sont attendus dans la zone.
Mais alors à quoi il joue Donald Trump, Louise?
Eh bien officiellement, il lutte contre le narcoterrorisme, l'une de ses grandes promesses électorales, et contre celui celui qu'il présente comme un baron de la drogue, le président du Venezuela. Nicolas Maduro serait à la tête du cartel de los Soles, référence au soleil que les hauts gradés vénézuéliens portent sur leurs épaulettes. Sa tête est depuis 5 ans mise à prix par les États-Unis. 50 millions de dollars, prime record, le double du montant offert pour Oussama Ben Laden. Nicolas Maduro nie tout lien avec le narcotrafic, malgré la condamnation de deux neveux de son épouse pour trafic de cocaïne à New York. Et son pays est sur le pied de guerre. Patrouille navale dans le golfe du Venezuela et campagne d'enrôlement très médiatisée. 8 millions de miliciens venus s'enrôler spontanément, assure Nicolas Maduro. C'est plus que le nombre de ses électeurs.
Sachant que le contentieux entre les États-Unis et Maduro ne date pas d'hier.
Effectivement, cela fait un quart de siècle que Washington et Caracas entretiennent des relations exécrables. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez, le prédécesseur de Maduro, Chavez et sa révolution bolivarienne, proche de Cuba, de la Russie et de la Chine. Les États-Unis ont cherché à le destituer et ils ont ruiné l'économie du pays via de lourdes sanctions instaurées en 2019. Politique dite de pression maximale voulue par Donald Trump, mais qui a jusqu'ici échoué. Maduro truque les élections, réprime ses opposants et se maintient au pouvoir.
La montée de température, Louise, de ces derniers jours n'en est pas moins brutale et inattendue.
Et oui, parce que Washington et Caracas ont conclu courant juillet un deal permettant la libération de migrants détenus au Salvador contre celle de prisonniers politiques vénézuéliens. Autre signe de détente, la reprise des opérations pétrolières au Venezuela du géant américain Chevron. Revirement déroutant donc que celui de Donald Trump, soumis, il est vrai, à des influences contradictoires au sein du gouvernement américain, entre partisans d'une ligne dure contre Maduro, menée par le secrétaire d'État Marco Rubio, et les pragmatiques qui veulent avant tout défendre les intérêts pétroliers des États-Unis. En déployant son armada en mer des Caraïbes, Donald Trump cherche-t-il vraiment à changer le régime vénézuélien? Le ministre de la Défense, Pete Hegseth, a laissé planer le doute tout à l'heure. C'est une décision qui relève du président et nous sommes prêts avec toutes les ressources dont dispose l'armée américaine.
Louise Baudet, à demain, merci beaucoup. Le reportage d'un jour dans le monde ce soir retourne à New Delhi, la suite d'une série signée Com Mastin. Comment respirer à nouveau dans une capitale indienne surpolluée? 30 millions d'habitants, c'est énorme. Hier, nous étions sur une montagne de déchets. Aujourd'hui, c'est la pollution de l'air qui nous occupe. Et vous allez voir que l'un ne va pas sans l'autre, puisque l'air est pollué de ce qu'on y brûle ou de ce que l'on roule d'ailleurs aussi. New Delhi, championne du monde des pics de pollution et d'une atmosphère dangereusement irrespirable. Et c'est donc Com Mastin qui raconte.
La mousson diluvienne a déjà inondé la région capitale. En plein chaos climatique aggravé par la bétonisation des sols, Delhi se prépare en plus à l'arrivée de l'hiver qui s'accompagne chaque année d'une explosion de la pollution de l'air clouée au sol par les températures.
Je m'appelle Ranjit Devraj et j'habite ici. Comme vous pouvez le voir, cette zone résidentielle est proche d'une immense centrale de valorisation des déchets juste à côté. Elle n'est même pas à 30 mètres et la fumée des émissions de l'usine nous affecte très gravement.
Comme après avoir respiré des gaz lacrymogènes, les yeux piquent et les poumons brûlent. En arrivant chez cet habitant du quartier d'Okhla, depuis sa terrasse, on voit une grande usine qui recrache de la fumée. Ici, les déchets d'hier sont transformés en gaz toxique de demain.
C'est une centrale qui brûle 2000 tonnes de déchets non triés par jour. 50% de ces déchets sont des restes de cuisine. En ce moment, c'est la mousson et tout cela ne brûle pas. Il n'y a pas de tri, ils font tout brûler en ajoutant du pétrole. Le résultat est catastrophique en termes de pollution de l'air.
Delhi compte 4 centrales qui chaque jour brûlent ainsi 11 000 tonnes de déchets non triés. Avec une association d'habitants, Ranjit Devraj a porté plainte auprès de la Cour suprême, car cette centrale devrait être équipée de filtres anti-pollution. Cet autre habitant s'estime pris au piège.
La centrale a été construite il y a 20 ans et a grandi depuis. Maintenant, les cas de cancer et maladies respiratoires se multiplient. Beaucoup aimeraient partir de cet enfer, mais la réputation du quartier a fait plonger les prix de l'immobilier.
Usine polluante, explosion du nombre de véhicules, brûlis agricoles, la pollution de Delhi est multifactorielle. Mais les gouvernements sont impuissants à la résoudre. Le précédent a construit une tour anti-pollution, inutile. Le nouveau a dégainé une autre idée, présentée par son ministre de l'Environnement.
Je suis heureux de vous annoncer que le gouvernement de Delhi vient d'obtenir l'autorisation d'utiliser le cloud bursting contre la pollution. La direction de l'aviation civile a donné son feu vert pour cette méthode nécessaire pour notre capitale. Nous allons commencer dès le mois de septembre.
La technique du cloud bursting consiste à disperser par avion des produits chimiques dans les nuages pour forcer la pluie à tomber et ainsi réduire les niveaux de particules fines. Son efficacité est plus que disputée. Amita Baviskar, sociologue de l'environnement.
La capture du carbone, les tours anti-pollution ou le cloud bursting sont l'exemple type de solution miracle. C'est un énorme gaspillage d'argent public, mais nous faisons semblant de croire à leur efficacité comme les politiques qui ne veulent pas devenir impopulaires avec des mesures contraignantes.
La Cour suprême de l'Inde a demandé l'interdiction des voitures diesel de plus de 10 ans dans la capitale. Au pouvoir à Delhi, le BJP de Narendra Modi a cependant renoncé à cette mesure qui provoquait une fronde de la classe moyenne. Il s'est recentré sur des mesures plus symboliques, comme la plantation d'arbres.
J'appelle cela l'écologie bourgeoise. Il ne s'agit pas tant de régler les problèmes environnementaux que d'épargner les privilégiés de leurs nuisances, leur offrir un espace urbain confortable avec des espaces verts.
Selon une étude de la revue Nature, la pollution de l'air à Delhi est responsable de 10 000 décès prématurés par an.
Comme Bastin pour le reportage. À demain, dernier volet de notre série, on parlera de la qualité de l'eau du fleuve et vous verrez qu'à côté, la Seine, c'est une piscine. Allez, la suite ce soir n'est pas sous la ligne de pollution mais sous les radars avec vous, Guillaume Audin.
Direction la Géorgie, Fabienne, où le pouvoir en place, pro-russe, est en train d'asphyxier la démocratie.
Et puis, écrire le monde le mercredi ou comment la littérature écrit le monde dans lequel nous vivons, Ilana Morioussef.
Bonsoir Fabienne et pardon pour ma voix. Ce soir, on va parler de Bruce Willis et de l'avenir de l'Europe.
Allez, à tout de suite, si vous le pouvez, bien sûr. Le temps de faire une petite escale en 1977 chez les Alessi Brothers. Oh, Laurie, c'est le titre. Il paraît que Laurie, c'est la copine d'un des deux frangins. Enfin, vous me direz, c'était il y a 48 ans, donc on ne sait pas si ça a tenu ou pas.
Yeah.
Les Alessi Brothers au Lori sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Et qu'est-ce qu'on trouve sous les radars? Eh bien, Guillaume Audin. Guillaume, manif improvisé hier devant le Parlement géorgien. Et derrière, une évacuation très musclée.
Par la police géorgienne, 16 personnes ont été arrêtées, souvent de jeunes femmes, de jeunes hommes qui voient littéralement s'évanouir leur rêve de démocratie. Ça vous donne une idée de l'état de tension qui règne en Géorgie où ce mercredi, à Tbilissi, le Parlement est en train d'étrangler l'opposition, ni plus ni moins, sur la base d'un rapport produit par une commission aux ordres et qui accuse cette opposition d'activité anticonstitutionnelle de nature, je cite, à menacer la sécurité nationale. Alors qui est visé? Un très grand nombre d'ONG et tous les partis pro-européens qui seraient responsables de tentatives révolutionnaires, par exemple cette manifestation hier, mais surtout celle de l'année dernière, des protestations monstres qui avaient été très durement réprimées. Ce rapport, il va être adopté, hein, c'est en train de se jouer en ce moment. Facile, seuls les députés du parti au pouvoir siègent au Parlement, les autres ont démissionné de guerre lasse face à un gouvernement sous influence russe qui a saisi la Cour constitutionnelle pour graver dans le marbre l'interdiction des partis d'opposition. Une autre formalité dans un pays où la justice n'est pas indépendante. Poutine, qui envahit la Géorgie en 2008, ce soir se frotte les mains.
The Electoral Office of Jamaica says it is ready for Wednesday's general election with over
7. On vote ce mercredi en Jamaïque, Guillaume, un peu plus de 2 millions d'électeurs jamaïcains qui se rendent aux urnes.
Et ils éliront ce mercredi aussi un nouveau gouvernement ou pas, parce que le Premier ministre sortant va tenter d'établir un record en remportant un troisième mandat consécutif. Ça n'est jamais arrivé en Jamaïque, mais cette fois c'est très serré car son parti libéral-conservateur est devancé d'une courte tête dans les sondages par la formation d'opposition, plutôt de centre-gauche. Les enjeux, criminalité, pauvreté, essor économique, chacun a sa recette, on verra qui triomphe. En réalité, le cœur de ces élections législatives, c'est un consensus entre les deux partis. Cette ancienne colonie britannique, indépendante depuis 1962, la patrie de Bob Marley, elle pourrait prochainement retirer au roi de Grande-Bretagne, Charles III, son rôle de chef d'État. La Jamaïque entend devenir une république à part entière, prête à élire son propre président. Et ça, c'est un bouleversement majeur. Le signal que la couronne britannique perd de son influence dans les Caraïbes. Tout le monde s'entend là-bas. Il est plus que temps de refermer la parenthèse coloniale.
En Suède, Guillaume, c'est un drame national. Le groupe ABBA, snobé par le ministère de la Culture suédois.
ABBA, monument du patrimoine suédois. J'ai même envie de dire monument du patrimoine mondial. Dancing Queen.
Mais planétaire, monsieur.
Mais qui n'a pas dansé sur ce morceau-là? Peut-être les membres d'un obscur, très officiel comité chargé de dire ce qui fait l'identité de ce grand pays qu'est la Suède. Le prix Nobel, Ikea, les films de Bergman, Fifi Brin d'Acier, pour ceux qui s'en souviennent, peut-être vous, Fabienne, je sais pas. En tout cas, pas à bas.
Pas du tout.
Pas à bas. Et ça, c'est vécu comme un sacrilège en Suède. Motif avancé par le comité, il faut avoir 50 ans minimum d'existence. Alors moi, j'ai sorti ma calculette. À bas, à 52 ans,
ah bah alors.
Le quatuor est donc dans les clous. Donc c'est quoi le problème, hein, c'est ça? Eh ben, c'est pas forcément une histoire de calendrier. Il y a sans doute derrière un choix politique et culturel, choix validé par un gouvernement libéral conservateur, soutenu, il faut le dire, par l'extrême droite suédoise, qui, elle, défend une vision nettement plus traditionnaliste de la culture jusqu'à la caricature, parce que balayer à bas du patrimoine suédois, et ben ouais, ça fait mal aux oreilles.
Ah ben carrément, Guillaume Audin, merci beaucoup. Vous ne faites pas mal aux oreilles, donc vous reviendrez demain. Allez, écrire le monde et lire comme les auteurs voient, comment les auteurs voient la planète. Ilena Mor Youssef est là.
France Inter. Un jour dans le monde.
Et Ilena, vous avez choisi le plus long chemin vers un auteur européen ce soir, puisqu'on démarre des États-Unis et des films des années 90 pour arriver jusqu'à un roman bulgare.
Aujourd'hui, Fabienne, j'ai envie de vous parler de Bruce Willis. Ça ne nous rajeunit pas, mais je fais partie de cette génération qui a adoré Die Hard et ses autres films d'action. Je pense même que j'ai dû être un peu amoureuse de lui à l'époque. Bruce Willis, vous le savez peut-être, est atteint depuis quelques années de démence fronto-temporale, une maladie neurodégénérative pour laquelle il n'existe pas de traitement. Et la semaine dernière, son épouse, Emma Heming, s'est confiée au micro de Diane Sawyer sur la chaîne ABC.
Bruce est en très bonne santé. C'est juste ses capacités cérébrales qu'il abandonne.
Mais il ne parle plus.
Oui, sa parole disparaît. Mais on s'adapte. On a juste une manière différente de se parler.
Ça arrive que vous retrouviez le Bruce d'avant ?
Ces jours arrivent parfois, pas forcément des jours entiers, mais ce sont des moments. Parfois, on retrouve cette malice et cette étincelle dans ses yeux et elle me transporte. Mais ça repart aussi vite que ça vient.
Because as quickly as those moments appear, then it goes.
Alors évidemment, Ilana, ça brise le cœur d'entendre ça, mais cette interview fait aussi partie d'un plan de promotion.
Oui, en effet, et la semaine prochaine, Emma Heming publie un livre intitulé « The Unexpected Journey » qu'on pourrait traduire par « Le voyage inattendu » sur le parcours des aidants familiaux. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que cette interview m'a fait penser à un livre merveilleux d'un écrivain bulgare, Georgi Gaspadinov. Gaspadinov n'est pas aussi connu en France qu'il le mériterait, mais pour ce roman, Le Pays du Passé, il a reçu en 2023 l'International Booker Prize, un prix extrêmement prestigieux, souvent précurseur du Nobel. Le personnage principal du roman est un psychiatre, Gostin, qui essaie de stimuler la mémoire de ses patients, comme ce monsieur N, originaire d'un pays d'Europe de l'Est.
Un homme, que nous appellerons monsieur N, reste assis près de la fenêtre de sa chambre à la fin de ses jours et il essaie de ressusciter ce qui s'en est allé. La mémoire le quitte, comme l'ont quitté ses amis lorsqu'il est tombé en disgrâce. Parfois, des personnes de passage lui racontent des histoires dans lesquelles il apparaît, mais il ne se rappelle rien de ce qui est raconté. Il tombe sur des textes sous lesquels est écrit son nom, il a sans doute été relativement connu, ensuite on l'aura effacé. Il perd la mémoire et, avant de quitter ce monde, il doit recoller des morceaux de lui-même.
Et à force de photos, de lettres exhumées et de conversations, Monsieur N arrive finalement à reconstituer une partie de son passé. Et comme ce docteur Gostin a de la suite dans les idées, il décide de créer des cliniques à produire du passé. Les malades sont accueillis dans l'année ou la décennie où ils ont été le plus heureux et tout est reconstitué dans les moindres détails. Car notre psychiatre en est convaincu, même les personnes atteintes de démence ont le droit de vivre heureuses. D'ailleurs, ça nous concerne tous ou presque. Toutes les 3 secondes, dit le docteur Gostin, une personne développe une démence dans le monde et c'est un chiffre tout à fait vérifié.
Il y a un marché, comme on dit, Ilana.
Oui, ces cliniques à produire du passé marchent tellement bien qu'elles donnent des idées aux dirigeants européens en crise, ceux que Gaspadinov appelle les hommes en bleu marine. Puisque l'Europe est en crise, puisqu'il est de plus en plus difficile d'imaginer un avenir commun, choisissons une Europe du passé, un ersatz de passé peut-être, mais c'est mieux que rien. Chaque dirigeant va donc organiser dans son pays un référendum pour demander à la population de choisir dans quelle décennie du XXe siècle elle a envie de vivre. C'est contre cette dérive de l'usage du passé que Gaspadinov veut alerter. Il le disait en mai 2022 lors d'une rencontre à la Fondation Michalski en Suisse.
J'appelle ça le virus du passé. Ce sentiment que le passé nous revient en pleine face. Certains politiciens et populistes essaient de nous vendre leur version du passé. Je les appelle des dealers de passé, sur le marché noir du passé. C'est pour ça que je voulais écrire cette histoire sur le monstre discret qu'est la nostalgie. J'avais la volonté d'écrire sur la perte de mémoire et les résurgences du passé.
Less memory, more past.
Moralité Fabienne, on devrait davantage lire et écouter les écrivains originaires de l'Europe de l'Est. Ils ont payé cher pour le savoir. La mémoire vivante, oui. L'idolâtrie du passé, en revanche, c'est un poison pour les peuples.
Ilana Mor, Youssef, rendrez-vous coucher, je vous en supplie. Le pays du passé de Georgi Gaspadinov, traduit du bulgare par Marie Vrina, et c'est aux éditions Folio Gallimard.